La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
Lors de ma précédente intervention, il était question d'idolâtrie. Et nous avons vu que dans le contexte de l'idolâtrie se trouvent également les familles. Et que nous avons également eu un petit aperçu de comment l'idolâtrie transite de génération en génération à travers la famille. Et j'avais un petit peu évoqué le fait que ce vecteur qui fait avancer l'idolâtrie serait la tradition. Mais aujourd'hui, je vous propose de voir ce qu'est justement cette tradition à travers la progression de l'idolâtrie. Nous avons vu aussi que il y avait une source, il y avait une origine au problème d'Ézéchiel 9 qui a provoqué, eh bien, la destruction de Jérusalem et de ses habitants, et notamment les familles. Et c'était justement le problème de l'idolâtrie. Le texte d'Exode 20 et le verset 4 à 5, qui est le deuxième commandement, nous rappelle que Dieu est un Dieu jaloux et qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Nous avons vu l'exemple de Achan et de sa lignée ascendante, où nous avons vu que les aïeux, les plus grands, les grandes personnes au-dessus de Achan, avaient tous eu à peu près le même problème. Et ce problème, c'était le vol. Et nous avons vu que cette graine du vol s'est répandue jusqu'à la génération de Achan. Et la troisième et la quatrième génération a été détruite. C'était juste un exemple biblique. Mais voyons maintenant ce que dit la Bible sur ce problème justement de transmission du péché. Et je vous invite à lire avec moi le texte qui se trouve dans Ésaïe 14 et le verset 21. Ésaïe 14 et le verset 21. Dans Ésaïe 14 et le verset 21, il est dit « Préparez le massacre pour les fils à cause de l'iniquité de leur père. » Donc ici, cela confirme le fait que lorsque Dieu parle d'iniquité, eh bien, cela peut avoir une conséquence sur les générations qui suivent. Et remarquez ce qui est dit après. « Qu'ils ne se lèvent plus pour posséder la terre et couvrir de ville la face du monde. » Ce qui veut dire qu'ici, eh bien, Dieu va stopper le cycle de l'iniquité, afin qu'il ne se lève plus pour posséder la terre. Et remarquez ce qui est dit, encore au verset 22. « Je m'élèverai contre eux, dit l'Éternel des armées, c'est-à-dire contre ses fils, et je retrancherai de Babylone son nom et son reste, le fils et le petit-fils, dit l'Éternel. » C'est pour vous faire comprendre que ces enfants qui ont fait germer l'iniquité de leur père, eh bien, font partie de Babylone. Ce sont des enfants qui ont... Alors, quand je dis enfants, il faut bien comprendre que ce sont des personnes qui sont dans la possibilité de faire des choix et qui peuvent faire des choix et qui ont fait le mauvais choix. Tout adulte que nous sommes aussi enfants. Faisons-nous les mauvais choix qui font que nous rejoignons Babylone? Si oui, eh bien Dieu nous retranchera, que ce soit le fils ou le petit-fils. La Bible, dans d'autres textes, appuie encore cela, dans Nombre 14 et le verset 18, où il reprend, Nombre 14, verset 18, où il reprend justement ce commandement. La même chose dans Néhémie 9 et le verset 2. Et je vais vous inviter à lire avec moi le texte de Psaume au chapitre 51 et le verset 5. Psaume 51 et le verset 5. Car je connais mes transgressions et mon péché est toujours devant moi. C'est ce qu'il nous faut comprendre aujourd'hui. Si nous voulons sauvegarder la vie de nos futures générations, nous devons reconnaître nos transgressions. Et nous devons avoir devant les yeux nos péchés. Mais avons-nous cette possibilité d'avoir devant les yeux nos péchés, de savoir, de pouvoir les reconnaître sans une action du Seigneur, sans que Dieu ne nous révèle ce que nous avons dans le cœur? Nous devons aujourd'hui prier, mettre nos genoux à terre et demander au Seigneur de nous éclairer sur les péchés qui sont cachés au fond de nous. C'est ce que nous allons voir à travers l'étude d'Ézéchiel 8. Nous avons vu hier que Ézéchiel 9 était la conséquence. Et cette conséquence était la destruction du peuple, et notamment des familles. Mais il y avait une cause. Et cette cause se trouve dans Ézéchiel 8. Cette cause, c'est l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et maintenant, je vais vous proposer une étude, verset par verset, du texte d'Ézéchiel au chapitre 8. Prenez votre Bible avec moi et prenez le premier verset d'Ézéchiel au chapitre 8. Or, la sixième année, le cinquième jour du sixième mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, l'Éternel, tomba sur moi. Je ne parlerai pas des aspects temps, des aspects de temps de ce verset. Mais j'aimerais insister sur le fait que Ézéchiel, à ce moment précis, était en train de faire la volonté de Dieu. Il était assis en face des anciens d'Israël, qui étaient eux-mêmes chez lui, et il leur enseignait. Et il leur enseignait quoi? Eh bien, Ézéchiel 3 et le verset 16 nous rappellent que Ézéchiel avait une mission, celle de transmettre la parole prophétique aux anciens. Sans quoi, eh bien, leur sang lui retomberait sur sa tête. Donc Ézéchiel, à ce verset 1, eh bien, était en train de faire la mission que l'Éternel lui avait confiée, c'est-à-dire de transmettre. Mais transmettre quoi? L'iniquité? Non, de transmettre la parole de Dieu. Et c'est ce que nous devons faire, nous, aujourd'hui. Passons directement au verset 2, où il est dit « Et je regardais, et voici une figure semblable à du feu dans son aspect, depuis ce qui paraissait être ses reins jusqu'en bas, c'était du feu. Depuis ce qui paraissait être ses reins jusqu'en haut, c'était une sorte de splendeur pareille à celle de l'airain poli. » Je ne vais pas m'attarder sur la description de ce verset, mais je pense que vous avez tous compris qu'il s'agit de Christ ici. Pourquoi? Parce que au début du ministère d'Ézéchiel, eh bien, il a une vision de ces quatre êtres ayant quatre faces différentes, sur laquelle se trouve, eh bien, le trône de Dieu. Et nous savons que sur ce trône était un homme ayant la même description. Nous retrouvons également cette même description dans Apocalypse au chapitre 1. Bien sûr, ici, il s'agit de Jésus. Mais ces deux premiers versets d'Ézéchiel 8 nous enseignent déjà quelque chose. C'est qu'alors qu'Ézéchiel était en train de transmettre la volonté de Dieu, alors qu'il faisait la volonté de Dieu, c'est seulement là que la gloire lui apparaît. C'est à ce moment-là que la gloire de Christ lui apparaît. Cela est une leçon, mes amis, pour nous. En deux versets, cela nous enseigne que si nous faisons la volonté du Père et que nous transmettons les bonnes choses et que nous enseignons les bonnes choses, alors la gloire de Dieu peut nous paraître. Passons maintenant au troisième verset. Et elle avança une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. Et l'Esprit m'enleva entre la terre et les cieux et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure qui est tournée vers le nord, où se trouvait l'idole de la jalousie qui provoque la jalousie de l'Éternel. Avant de considérer le placement exact où Ézéchiel a été amené, j'aimerais que nous puissions porter attention à cette forme de main, d'accord, qui est apparue. Cette forme de main, c'est la même forme de main qui est apparue devant Belshazzar, lorsque Belshazzar a été condamné avec ce texte, Méné, Méné, Tekel, Upharsin. Cette forme de main a signé la condamnation de Belshazzar. Ce qui veut dire que la forme de main qui apparaît ici au niveau d'Ézéchiel n'est pas de bon augure. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle qui va être annoncée à ce moment précis. Mais Madame White nous renseigne aussi sur cette forme de main. Et elle nous dit dans Ézéchiel 1 et au verset 8, que je vous invite à prendre, Ézéchiel 1 et le verset 8, où il est dit que des mains d'hommes sortaient de dessous leurs ailes sur les quatre côtés, et tous les quatre avaient leur face et leurs ailes. Des mains d'hommes sortaient de dessous leurs ailes. Étaient-ce les mains de ces chérubins? Je vous pose la question. Est-ce que c'était les mains de ces chérubins? Voici ce que nous dit Madame White dans Seventh-day Adventist Bible Commentary au volume 4. Et elle dit dans la vision d'Ézéchiel, Dieu avait sa main sous les ailes des chérubins. Était-ce les mains des chérubins? Non. C'était les mains de Dieu lui-même. Dieu avait sa main sous les ailes des chérubins. Et observez ce qu'elle va dire encore une fois. Les messagers célestes vus par Ézéchiel comme une lumière brillante qui traverse les créatures vivantes avec la rapidité de l'éclair représentent la vitesse à laquelle ce travail ira finalement à terme. Il faut comprendre une chose, c'est que ces mains qui sont sous les ailes des chérubins tiennent en réalité les chérubins comme une sorte de poupée et les agitent à la vitesse de l'éclair et les déplacent à la vitesse de l'éclair pour que le travail soit fait. Vous comprenez cela? Est-ce que les chérubins se déplacent d'eux-mêmes? Est-ce qu'ils font leur propre volonté? Non, ils suivent la volonté de Dieu et ils les déplacent à la vitesse de l'éclair. Maintenant, je pose une question. Avez-vous remarqué dans Ézéchiel 8 que cette forme de main a pris Ézéchiel par les cheveux? Cette même forme de main qui a condamné Belshazzar et qui dirige à la vitesse de l'éclair les chérubins, cette forme de main qui a pris Ézéchiel par les cheveux? Eh bien, permettez-moi de dire que personne sur terre n'a jamais eu les cheveux tirés de cette façon. Avez-vous déjà eu les cheveux tirés par quelqu'un? On se dit, ouh, ça peut faire mal. Quand on se coiffe et qu'on tire les cheveux, ouh, ça peut faire mal. Mais là, Ézéchiel a subi cette main qui condamne, cette main qui dirige les choses à la vitesse de l'éclair. Poursuivons dans Ézéchiel 8 et le verset 4. Ézéchiel 8 et le verset 4. Où il nous est dit, « Et voici la gloire de Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. » Je vais vous poser une question. Dans le temple, il y avait l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et la gloire de Dieu était là? Je vous pose la question. Elle n'était pas tout à fait là. En fait, il nous faut bien analyser le texte. Et pour cela, il nous faut comprendre le contexte. D'accord? Je vous invite à lire avec moi le texte de Romains 3 et le verset 23. Il est dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je vous pose une question. Est-ce que ceux qui ont péché peuvent voir la gloire de Dieu? Non, ceux qui ont péché ne peuvent pas voir la gloire de Dieu. Alors les sacrificateurs qui prient à ce moment-là une idole de la jalousie, peuvent-ils voir la gloire de Dieu? La gloire de Dieu peut-elle être à ce niveau-là? Non, la gloire de Dieu ne peut pas être là. Lisez avec moi le texte de Ézéchiel 10. Ézéchiel 10 et le verset 3. Ézéchiel 10 et le verset 3. Ézéchiel 10 se situe juste après Ézéchiel 9. Ézéchiel 10 se situe juste après la destruction du peuple. Et qu'est-ce qui nous est dit sur la gloire de Dieu juste après la destruction du peuple idolâtre? Ézéchiel 10 et le verset 3. Il est dit que les chérubins étaient à la droite de la maison. Étaient-ils à l'intérieur de la maison? Ils étaient sur la droite de la maison. Quand l'homme alla, l'homme vêtu de lin, et la nuée remplit le parvis intérieur. C'est seulement après la destruction de méchants que les chérubins qui sont à la droite du temple entrent dans le parvis intérieur. Tant que les méchants sont là, eh bien, la gloire de Dieu ne peut pas entrer dans sa maison. Et nous avons lu un psaume ce matin que je vais vous inviter à reprendre. C'est le psaume 5. Le psaume 5. Et au verset 5, psaume 5 et le verset 5. « Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. » Se peut-il que le méchant ait sa demeure à côté de Dieu? Non. Se peut-il que Dieu fasse sa demeure parmi les méchants? Non. Tant que le temple n'est pas purifié des souillures, la gloire de Dieu n'est pas dans le temple, mais à la droite, nous dit Ézéchiel 10. Et ça, c'est ce qu'il nous faut comprendre, mes amis. Tant que nous gardons l'idole de la jalousie à l'intérieur de nous, de notre foyer, la gloire de Dieu ne peut pas être là. Nous ne pouvons pas recevoir le sceau de Dieu tant que l'idolâtrie est encore ici, est encore présente dans notre foyer, chez nous ou dans nos vies. Poursuivons avec Ézéchiel 8 et le verset 5. Il me dit, « Fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. » Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Maintenant, je vais commencer à rentrer dans le détail du placement, d'accord, de cette idole. Le septentrion, c'est le nord, d'accord? Septentrion, c'est le nord. Regardons attentivement cette image qui est à l'écran. Donc, vous pouvez voir ici une maquette qui se trouve à Jérusalem. D'accord? Cette maquette, c'est une maquette du temple tel que l'aurait construit Hérode. Je dis bien tel que l'aurait construit Hérode parce que je vais revenir dessus demain. OK? Et sur cette maquette, nous pouvons voir une place qui est carrée, d'accord? Et qui représente, eh bien, le temple tel que l'aurait construit Hérode. Sur le côté gauche, d'accord, qui représente le sud, sur le sud, d'accord, se trouve l'entrée principale du temple. C'est dans cette entrée que passaient les personnes pour leur service, d'accord. Devant, il y avait des petites boutiques dans lesquelles les gens pouvaient acheter des petites choses, des souvenirs, mais on croit aussi qu'ils pouvaient acheter des petites idoles, d'accord, à déposer à l'intérieur du temple. Il y avait un véritable business à ce moment-là. Mais ici, sur l'entrée sud, se trouvait l'entrée principale où l'ensemble du peuple était invité à entrer. Il y avait aussi un bain public pour les pèlerins à cet endroit-là. Dans la première partie, ici, que vous voyez au premier plan, c'est l'entrée est, d'accord? Donc, cette partie en face, eh bien, c'est l'entrée est. Ce que vous voyez au premier plan sur votre écran, c'est l'entrée est. Et c'est par l'entrée est que passaient les sacrificateurs. De l'autre côté, c'est-à-dire l'entrée ouest, donc en arrière-plan de votre, de ce que vous voyez à l'image, en arrière-plan, eh bien, vous avez l'entrée ouest. Il se peut, on n'en est pas sûr, que ce soit l'entrée réservée aux personnes riches, à une entrée royale, parce qu'elles entreraient directement en contact avec le lieu très saint du sanctuaire. Et on pense que sur votre droite, d'accord, qui représente la partie nord du temple, se ferait l'entrée plutôt administrative, l'entrée plutôt logistique, où à côté, vous avez une petite piscine, la piscine dans laquelle étaient lavées les futures offrandes. Et où se trouvait également la garnison romaine, nous allons en parler demain. D'accord? Vous pouvez voir au nord, donc à droite de votre écran, des tourelles, quatre petites tourelles qui correspondent à ce que l'on considère aujourd'hui être un camp romain. Donc vous voyez que tout était ordonné. Mais gardez en mémoire l'entrée sud, d'accord, qui est sur votre gauche, l'entrée sud avec le toit, d'accord, avec le toit en tuiles. Et l'entrée au premier plan, qui est l'entrée est. Et c'est là où se lève le soleil. Donc, selon le texte de Ézéchiel 8, et le verset 5, eh bien, l'idole de la jalousie se trouverait au nord de la porte de l'autel à l'entrée. Donc, je vous ai fait un petit plan que vous pouvez voir à l'écran, où là, j'ai retourné dans ce sens, d'accord ? Où là, j'ai retourné dans ce sens le plan. Donc, l'entrée sud, l'entrée principale se trouve maintenant en bas. D'accord, l'entrée principale se trouve maintenant en bas. Et l'entrée est des sacrificateurs se trouve maintenant sur votre droite. D'accord? Et donc, selon ce qui est indiqué dans Ézéchiel 8 et le verset 5, l'idole de la jalousie se trouverait quelque part à cet endroit. Il se trouverait quelque part à l'entrée nord du parvis intérieur. D'accord? Près de la porte de l'autel, à l'entrée près de la porte de l'autel. D'accord? Donc, à l'entrée nord près de la porte de l'autel. Voici se trouverait à peu près l'idole de la jalousie. Elle peut être d'un côté à gauche de la porte ou à droite de la porte, peu importe. Mais la description nous dit qu'elle se trouve à peu près ici. D'accord? Et avez-vous remarqué que l'entrée principale se trouvait au sud? Cela veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui rentraient directement, eh bien, ne voyaient pas directement l'idole de la jalousie. Elle était cachée. Elle n'était pas directement visible. Des personnes peut-être honnêtes venaient adorer ici et ne voyaient pas qu'il y avait une idole cachée à cet endroit. Parce qu'elle était de l'autre côté du mur nord. Ézéchiel 8 et le verset 6. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Ici, on nous montre qu'il va y avoir une évolution dans l'idolâtrie. D'accord? Parce que Dieu dit, vois-tu, tu verras encore des choses, d'autres abominations grandes, d'autres grandes abominations. Pourquoi? Pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Cela vient confirmer le fait que Dieu n'habite pas avec les personnes qui pratiquent l'iniquité. Et que Dieu ne se trouve pas à ce moment-là dans son temple, mais à côté, comme nous dit Ézéchiel 10. Ézéchiel chapitre 8 et les versets 7 à 9. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. Tout à l'heure, Dieu a dit à Ézéchiel que l'idole de la jalousie était une abomination et qu'il verrait d'autres grandes abominations. Donc, la première abomination, l'idole de la jalousie. Deuxième abomination, eh bien, il y a une pièce dans laquelle il y a plein d'idoles et plein de méchantes abominations. D'accord? Et cette pièce, donc, il nous est dit, on a un peu plus de détails sur cette pièce, justement, dans Ézéchiel 8 au verset 10. Il nous est dit, « J'entrais et je regardais, et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. » À ce niveau-là se trouvent toutes les idoles de la maison d'Israël peintes, où ça ? Sur les murs de la maison. Et cela correspond à l'abomination que le Seigneur a dit que Ézéchiel verrait. Mais ce n'est pas fini. Allons maintenant dans Ézéchiel au verset 11. Au verset 11, 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. 70 hommes. Ce chiffre est très symbolique. Parce que le chiffre 70 dans la Bible correspond à la sélection d'un groupe d'hommes qui vient représenter le peuple. C'est ce que vous pouvez lire dans Nombre au chapitre 11. Lorsque 11 hommes ont été sélectionnés pour représenter le peuple. Et donc, on a ici 70 hommes qui, symboliquement, représentent le peuple et qui font une adoration idolâtre. Et cela s'appelle une abomination selon le Seigneur. Et parce qu'il y a ce chiffre 70, cela fait le lien entre les autorités et le peuple. Nous pouvons comprendre ici que ce n'est pas seulement les autorités de l'Église ici qui sont dans l'idolâtrie, mais aussi le peuple qui ont des représentants dans l'idolâtrie. Avez-vous remarqué le nom Jaazania? Ézéchiel le reconnaît. Pourquoi est-ce qu'il reconnaît Jaazania? Comment se fait-il qu'il le reconnaisse? Parce que ce Jaazania, eh bien, est une personne qui est connue. Pourquoi ce Jaazania est connu? Parce qu'il est le fils de Shaphan. Deux Rois, au chapitre 22 et le verset 3, Deux Rois 22 et le verset 3, nous fait comprendre que Shaphan travaillait avec le roi Josias pour faire tomber les idoles. Donc ce Shaphan était quelqu'un d'illustre et noble. C'était un juste devant l'Éternel, puisqu'il renversait les idoles avec l'aide de Josias. Et ce n'est pas tout. Jérémie 26 et le verset 24 nous dit qu'un autre fils de Shaphan, d'accord, qui s'appelle Achikam, et qui donc est le frère de Jaazania, eh bien ce Achikam a délivré Jérémie. Il a libéré Jérémie d'un puits pour le sauver. Ce qui montre que dans la famille de Jaazania, il y a des personnes qui sont illustres, des personnes qui sont justes devant l'Éternel. Mais comment se fait-il que Jaazania, le fils de Shaphan, le frère de Achikam, soit tombé dans l'idolâtrie? C'est pour vous dire, mes chers amis, que même si nous, qui sommes justes, que même si nous sommes justes devant l'Éternel, cela ne met pas forcément à l'abri notre descendance. D'où le fait, c'est la raison pour laquelle nous devons éduquer nos enfants et les affermir dans la foi et dans la vérité, pour qu'aucun d'eux ne puisse tomber, même si nous nous considérons comme justes, même si Dieu nous dit « Tu es un juste devant moi », cela ne met pas forcément à l'abri nos enfants. Sauf si Dieu a dit que ton enfant n'aura rien. Dans ce cas-là, croyons le Seigneur, notre enfant n'aura rien. Poursuivons et voyons selon la description que nous a fait Ézéchiel, où peut se trouver à peu près ce culte rendu par les 70 anciens. Il se peut que ce culte se fasse le long de la muraille nord, sur la gauche ou sur la droite, peu importe. On sait qu'il se fait quelque part sur la muraille nord, d'accord ? Et donc là encore, nous réalisons que l'idole de la jalousie est au nord, que ce culte se fait au nord et que l'entrée principale est au sud. Ce qui veut dire que ceux qui rentrent dans l'église ne se rendent pas compte que leurs ministres sont des adorateurs des idoles. Que les gens du peuple qui rentrent dans le temple ne se rendent pas compte que leurs pasteurs sont des idolâtres. Et c'est ça, cette évolution. On a d'abord la présence sournoise, discrète, d'une idole de la jalousie, et puis une progression qui nous mène vers, finalement, la réalisation concrète de cette adoration, vers 70 anciens qui vont réaliser un culte idolâtre. Verset 12. « Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. » Est-ce que vous pensez que l'Éternel ne voit pas ce qu'ils font? Mais bien sûr que l'Éternel voit ce qu'ils font. Et c'est parce qu'ils osent dire cela que cette phrase est la raison pour laquelle ils sont détruits dans Ézéchiel 9. Ézéchiel 9 et le verset 9 et 10. Si vous prenez Ézéchiel 9 et le verset 9 et 10. Il me répondit, « L'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres. La maison est pleine d'injustice. Car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays. L'Éternel ne voit rien. Moi aussi, je serai sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. » C'est parce qu'ils disent cela qu'ils sont détruits. Et cela est la raison de leur destruction. Poursuivons dans Ézéchiel 8 et le verset 13. Une fois de plus et une fois encore, l'Éternel fait comprendre qu'il y a une progression et que les choses iront de mal en pis. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils s'y commettent. C'est comme si les abominations que nous avons vues jusqu'à maintenant n'étaient pas les pires. Ézéchiel 8 et le verset 14 nous dit « Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. » Que se passe-t-il ici? Ézéchiel est reconduit à un autre endroit et cette fois-ci, nous pouvons voir la progression. Parce qu'avant, il y avait une idole qui était cachée, masquée, discrète. Ensuite, on a un culte qui est rendu, qui est déjà un petit peu moins discret. Et maintenant, on entend l'idolâtrie, puisqu'il y a ces femmes qui se mettent à pleurer, Tammuz. Tammuz, selon l'histoire, serait le fils de Nimrod. Nimrod est celui qui est à l'origine de la tour de Babel et de la construction de Ninive. Il est à l'origine de la déification humaine. Il est à l'origine du dieu soleil. Et ces femmes se mettent à pleurer Tammuz. Un homme qui serait peut-être mort 1500 ans avant. Qu'est-ce qui se passe ici? Si ces femmes pleurent un homme qui serait mort 1500 ans avant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le culte qui était rendu à Tammuz 1500 ans avant a perduré dans le temps jusqu'à ce jour, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons ici une tradition. Cela veut dire que nous avons ici une tradition. Ézéchiel 8 nous raconte la progression de la tradition. Donc, comme vous pouvez le voir sur le plan, et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du septentrion, ça veut dire du côté nord. Donc ici, nous sommes à l'extérieur de, nous sommes à l'extérieur du temple, d'accord, du côté nord, où il y a des femmes qui sont assises et qui pleurent Tammuz. Avez-vous remarqué que quand elles se rendent audibles, elles ne sont pas dans le temple? D'accord? Elles sont audibles, sans doute, dans le temple, mais elles ne se trouvent pas dans le temple. Et c'est là qu'il y a la progression. Ézéchiel 8 et le verset 15. Encore une fois, Dieu nous fait comprendre qu'il y a une progression. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celle-ci. Se peut-il qu'il y ait une abomination encore plus grande que tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant? Première abomination, l'idole de la jalousie. Deuxième abomination, un culte rendu par les anciens d'Israël. Troisième abomination, les femmes qui pleurent Tammuz. Et maintenant, nous sommes à l'approche d'une quatrième grande abomination, encore plus grande, nous dit Dieu. Quelle est-elle? Verset 16. « Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel, le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. » Que se passe-t-il ici? Eh bien, nous avons maintenant 25 hommes qui se trouvent non pas à l'extérieur du temple, non pas sur le parvis extérieur de la maison de Dieu, mais cette fois-ci dans le parvis intérieur de la maison de Dieu, entre l'autel et la porte. Quelle audace, n'est-ce pas, d'adorer le Dieu soleil à l'intérieur du sanctuaire de Dieu. Et ces 25 hommes sont tournés, où ça? Vers la maison de Dieu, n'est-ce pas? Non, ils sont tournés de l'autre côté, vers le Dieu soleil. Ils sont tournés vers l'Orient. Et ça, c'est un problème. Et ça, c'est l'abomination la plus grande. Et si vous avez remarqué la progression qu'il peut y avoir, si vous avez remarqué la progression qu'il y a dans ces quatre abominations, vous devez comprendre que l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel est le fondement de ces trois autres abominations. C'est le fondement de toutes les caractéristiques qu'il peut y avoir dans ces quatre abominations. Et ici, l'idole de la jalousie est aussi le fondement de l'idolâtrie. L'idole de la jalousie est aussi le fondement de la tradition humaine. Ne faites pas attention à la photo que j'affiche ici à l'écran. D'accord? Parce que cette photo rappelle également de l'idolâtrie. Le pasteur Alan Stump m'a appris, parce que je l'ai appris durant ce camp meeting, qu'est-ce que l'on apprend des choses durant ce camp meeting? C'est que l'idole de la jalousie, selon Elette Joseph Wagoner, c'est bien cela, pasteur Alan Stump, eh bien, serait une obélisque présente dans le temple. Mais cet obélisque serait à la racine de toutes les autres idoles que nous pouvons avoir ici. Et cette statue que vous voyez là se trouve à côté de chez moi. D'accord? Au Puy-en-Velay, notamment. Et nous pouvons y voir Marie avec un jeune enfant. Je n'aurai pas l'occasion d'en parler durant ce camp meeting parce que le temps est très court. Mais ici, nous avons une représentation, non pas de Marie dans la Bible et dans Matthieu, mais une représentation de la déesse Astarté et son fils Tammuz. C'est Tammuz qui était représenté ici. Donc ici, nous voyons que l'idolâtrie a progressivement avancé vers ce qu'on appelle une idolâtrie qui est pleinement assumée. Donc premièrement, nous avons la présence sournoise d'une idole de la jalousie. Deuxièmement, nous avons un culte idolâtre qui est caché, qui est voilé, mais un culte quand même. Troisièmement, eh bien, il y a des femmes qui se mettent à pleurer Tammuz. Elles revendiquent quelque chose, elles instaurent la tradition. Et enfin, nous avons un culte totalement assumé, un culte idolâtre totalement assumé en plein cœur de l'Église, en plein cœur du temple de Dieu. Et ce système en quatre étapes, c'est ce dont se servent aujourd'hui les autorités pour promulguer des lois iniques. Souvenez-vous, par exemple, du mariage homosexuel. Du mariage pour tous. Premièrement, numéro un, il y a eu une pensée. Quelqu'un s'est dit, et si on mariait un homme avec un homme? Et si on mariait une femme avec une femme? Deuxièmement, il y a eu un culte idolâtre caché. Des hommes ne sont pas restés dans le temple. Ils ne sont pas restés en France pour cela. Ils sont partis à l'étranger se marier. Ils sont sortis en dehors du pays pour se marier, parce que les lois n'étaient pas en leur faveur, tout simplement. Donc, ils ont été là où les lois étaient en leur faveur pour aller se marier entre eux. Puis, ils sont revenus dans le pays. Troisième étape, ils ont commencé à revendiquer en pleurant Tammuz. Ils ont commencé à se faire entendre à l'extérieur, dans les rues. C'est ce que nous avons vu avec le mouvement Taubira. C'est ce que nous avons vu avec ces personnes qui ont commencé à parler dans les rues et à revendiquer leurs droits, le droit au mariage pour tous. Et plus tard, au sein de la France, numéro 4, eh bien, enfin, on peut pratiquer le mariage homosexuel. Demain, nous allons voir comment cela s'est appliqué dans les communautés religieuses juives, et communauté religieuse adventiste du septième jour. Mais cela est la base de la tradition. Et si cette tradition idolâtre, nous la conservons comme une graine et que nous la chérissons et que nous l'arrosons, ce sont nos enfants qui vont la pratiquer. Et de manière pire que nous, puisqu'il y a progression, il y a progression. Nous avons eu l'occasion, sabbat dernier, durant le mois de juin, de voir cela. Et nous avons vu comment cela s'est reflété dans nos vies, à travers les traditions humaines, à travers les fêtes. Sachez, et nous l'avons vu il y a quelque temps, qu'il n'y a pas une seule fête que l'on appelle chrétienne, mais qui en réalité est d'origine païenne. Il n'y a pas une seule fête qui ne soit pas à la gloire de Tammuz. aucune de ces fêtes dites chrétiennes et qui ont une origine païenne, toutes en réalité ont pour origine Tammuz. Serons-nous de ceux qui pleureront Tammuz? Il faut savoir que nos enfants, si on n'enlève pas Ira là, en a parlé ce matin, si on n'enlève pas tout cela, si on ne s'en débarrasse pas, eh bien, nos enfants pleureront Tammuz. Ils le réclameront comme on réclame les cadeaux à Noël, comme on réclame les œufs de Pâques durant la Pâque, comme on réclame, comme on souhaite offrir des fleurs à la Saint-Valentin. Nos enfants réclameront Tammuz exactement comme on peut réclamer le carnaval. Toutes ces fêtes sont à la gloire de Tammuz. Et c'est là que nous avons une importante responsabilité à nous qui sommes parents. Pour conclure, je vais vous inviter à prendre ces derniers textes, et notamment dans 2 Timothée. 2 Timothée au chapitre 3 et les versets 1 à 4. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que d'autres, mais ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Souvenez-vous ce que nous avons dit hier. Qu'est-ce que la tradition selon la Bible? C'est honorer Dieu des lèvres, mais être éloigné du cœur. Ça, c'est la tradition. Et ce verset nous raconte l'histoire de la tradition. Et à la fin de l'histoire de la tradition, nos enfants seront catastrophiques. Si on ne stoppe pas la tradition, le cycle de la tradition, alors nous ferons appliquer le deuxième commandement de Dieu jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Ce sont nos enfants qui subiront nos punitions. 2 Corinthiens 12 et le verset 14. 2 Corinthiens 12 et le verset 14. Voici, pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux parents à amasser pour leurs enfants. Avez-vous entendu cela? Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents. Avez-vous remarqué le début de ce texte? C'est pour la troisième fois que je viens. Dieu punit jusqu'à quelle génération? Troisième. Et quatrième. Mais là, il dit, voici pour la troisième fois que je suis prêt à aller chez vous. Pensez-vous que l'apôtre Paul ira une quatrième? Et qu'est-ce qu'il dit dans son message? Il dit, ce n'est pas en effet aux parents à amasser pour leurs enfants? Il est en train de confirmer, mes chers amis, que ça fait trois fois qu'on vous répète les mêmes choses. Attention, la quatrième fois sera sans doute la dernière. Troisième et quatrième génération sont les dernières. Parce qu'au-delà, il y a destruction. Et c'est ce que nous a rappelé aussi tout à l'heure le pasteur Alan Stump. Nous sommes la dernière génération. Et dernier texte, mes chers amis, qui se trouve dans Éphésiens au chapitre 6 et les versets 1 à 4. Éphésiens, chapitre 6, et les versets 1 à 4. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. il n'y a pas seulement un message ici pour les parents, il y a aussi un message pour nos enfants. Enseignez-leur à vous obéir, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Nous avons tous compris ce qui nous incombe, la responsabilité qui nous incombe. Nous avons un rôle à jouer envers nos enfants. Et il est important que nous prenions nos responsabilités, exactement comme Ézéchiel a pris ses responsabilités. Dès le premier verset de Ézéchiel 8 et le verset 1, il était attablé avec les anciens et il prêchait et il éduquait les anciens. Et c'est alors qu'il a vu la gloire de l'Éternel. Si nous voulons que nos enfants voient la gloire de l'Éternel, nous avons une mission à accomplir, qui est de les éduquer. Fais attention que les mots du Seigneur ne soient pas pour nous les suivants. Qu'as-tu fait des enfants que je t'ai donnés? Gardons cela en mémoire. Et ce sera la question de fin.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.